Voilà, ouvrez vos Bibles à Marc chapitre 10. Et aujourd'hui, nous abordons, donc, comme vous savez, nous suivons Marc verset par verset. Et aujourd'hui, nous abordons les versets 32 à 45, un message que j'ai intitulé « La requête des fils de Zébédée est la formule pour devenir grand ». D'accord ? Alors, je vais lire à partir du verset 32 de Marc chapitre 10. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem. Et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivent avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. » Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela a été réservé. Les 10 ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Voilà notre texte d'aujourd'hui. Alors pour commencer, j'aimerais vous parler de la gloire, ça c'est en guise d'introduction, la gloire que Jésus a reçue après sa vie sur terre, et vous allez tout comprendre, d'accord ? Par exemple, dans Marc 16, le verset 19, il est dit ceci. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Voici ce que la Bible dit, est arrivé à Jésus une fois qu'il a terminé ce qu'il avait à faire ici sur terre. Dans Romains 8, par exemple, et le verset 34, il est dit ceci. Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Jésus est à la droite de Dieu et il prie, il intercède pour nous maintenant. C'est étonnant. Acte 2, 33 dit ceci. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Donc, à la droite de Dieu. 1 Pierre 3, 22. Il est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Hébreux 1, 3. Le Fils est le reflet de la gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toute chose par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et peut-être, un des versets les plus fabuleux par rapport à cette description de la gloire de Jésus, dans Philippiens 2, si vous voulez y aller avec moi, Philippiens 2, à partir du verset 9, il est dit ceci, « C'est pourquoi, et on y reviendra, aussi Dieu, parlant de Jésus, l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Est-ce que je peux entendre un amen ? Amen. La Bible nous décrit l'exaltation de Jésus-Christ. Ma question est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il est exalté ainsi ? Eh bien, ces versets que je viens de lire, regardez le verset 9, dit « c'est pourquoi ». C'est pourquoi. Le « c'est pourquoi » pointe en arrière. On va apprendre en lisant les versets juste avant pourquoi Dieu a élevé Christ à ce niveau. On le voit à partir du verset 5, il dit, donc Philippiens 2, 5, « ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Donc, Dieu le Fils était avec Dieu le Père dans l'éternité passée avant qu'il vienne sur terre. Verset 7, « Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme et s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Donc, ces versets 5 à 8 nous décrivent l'humiliation de Christ. Lui qui était pour toute l'éternité à la droite du Père, Dieu le Fils éternel, pour venir nous sauver, il est devenu un homme, il a pris un corps humain. C'est pour ça qu'il était sans péché, parce que c'était la gloire éternelle incarnée. Il est venu ici prendre notre péché sur lui, mourir une mort ignoble, cloué sur une croix, pour nous pardonner nos péchés. 3 jours plus tard, il est ressuscité. Il a été élevé et glorifié par le Père. Mes amis, vous venez d'entendre l'évangile de Jésus-Christ. Et celui qui croit à cela, celui qui se repent de ses péchés et croit en Christ comme Sauveur et Seigneur, eh bien sera lui-même élevé à cette gloire éternelle avec lui dans sa présence. Ça, c'est l'évangile. Alors, revenons à notre texte d'aujourd'hui. Notre texte d'aujourd'hui nous donne des détails surprenants sur l'humiliation du Seigneur lorsqu'il était ici sur terre, qui a mené à son exaltation par le Père. Et en fait, je vous donne l'application tout de suite, d'accord ? Ça, c'est l'application personnelle. Verset 44. Allez, on commence au verset 43, milieu du verset 43. « Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. » Ça, c'est l'application. La même chose est vraie pour vous et moi. « Quiconque veut être le premier, c'est ce qu'il dit ici, qu'il soit serviteur et esclave de tous. » C'est le monde à l'envers. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, le monde à l'envers. Et quelque part, ce matin, en examinant notre texte, nous allons voir les 3 raisons pour lesquelles Jésus a été exalté par le Père, et nous allons voir les applications parallèles, et vous allez comprendre le texte d'aujourd'hui sur ces fils de Zébédée, et tout, j'espère, sera clair à la fin de ce message. Donc, on va voir que Jésus a accepté de souffrir, Jésus a accepté de servir et Jésus a accepté de s'offrir et ainsi il a été exalté par le Père. Et en fait, notre exaltation est un petit peu liée à cela. Regardons. Numéro 1. Le Père a exalté Jésus parce que premièrement, Jésus a accepté de souffrir. Marc 10 à partir du verset 32. Peut-être avant d'y arriver, je vous pose une question. Imaginez que vous connaissiez le détail de votre avenir. Que vous connaissiez tout votre avenir en détail, comme un film. Vous dites, mais c'est génial. Imaginez que dans 2 Noëls, d'accord, disons Noël 2017, quelqu'un vous offre un billet de loto. Et que vous sachiez déjà 2 ans à l'avance qu'en grattant ce billet de loto qu'on vous a offert, vous êtes le gagnant de 5 millions. Vous réagissez comment ? Oh, trop bien, génial ! Dans 2 ans, je gagne le gros lot. Est-ce que ça va changer vous de perspective aujourd'hui ? Oui. Mais imaginez savoir aussi que dans 3 ans, 4 mois, 6 jours et 3 heures, vous allez avoir un grave accident de voiture et vous allez être paralysé pour le reste de votre vie. Ça, ce serait le cauchemar. Imaginez de vivre en sachant cela. Eh bien, mes amis, le scénario que nous voyons ici, le scénario Back to the Future presque, hein, comme le film, est réel pour le Fils de Dieu. Oui, il est le Fils de Dieu, lui qui a vécu dans l'éternité passée. Lorsqu'il est sur terre, connaissait parfaitement son avenir, et ici le relate pour la troisième fois à ses disciples. Il sait exactement chaque détail de son avenir. C'est surprenant. Regardez au verset 32. Ils arrivèrent à... Excusez-moi, je suis dans pas mon chapitre, verset 32. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem. Donc ils sont dans le territoire de la Pérée. Ils vont passer par Jéricho. Et ensuite, ils vont aller à Jérusalem. Donc Jésus est en train de se rendre à Jérusalem pour la dernière fois pour être crucifié. Et donc, il est dit que Jésus allait devant eux. Et les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Donc apparemment, pendant qu'ils sont en train de marcher, à un moment donné, Jésus prend une distance et décide de marcher au devant des disciples seuls. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il sait ce qui lui attend. Lui sait parfaitement ce qui lui attend à Jérusalem. Et son homme intérieur mesure le poids des prochains jours. Alors, bien sûr, les disciples connaissent bien Jésus et voient son changement de visage. Tout d'un coup, ils sont troublés, ils ont peur. Alors, bien sûr, Jésus avait déjà annoncé dans 8:31, 9:30 à 31, qu'il allait mourir, mais bon, ils n'avaient pas encore 100% compris ce qui se passait, ou ce qui allait se passer. Donc au verset 32 encore, à la fin du verset, les disciples étaient troublés et suivaient avec crainte. Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Donc à un moment donné, il se rejoint à ses disciples et maintenant il leur annonce clairement les choses qui devaient arriver. Il le dit au verset 33. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens. Se moqueront de lui, ils cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Alors c'est incroyable parce que Jésus ici donne un détail étonnant sur ce qui va lui arriver. Il utilise le terme « fils de l'homme » à son égard. C'est un titre qu'il utilisait pour parler de sa souffrance. Il était serviteur des hommes, il allait souffrir pour eux. Et il mentionne 9 détails surprenants sur ce qui va lui arriver. Très vite, regardez. Premièrement, et tout ça, je vous donne les versets, je les cite, vous pouvez les regarder pour être sûr que tout ça arrive exactement comme il était dit. Il serait livré aux principaux sacrificateurs, verset 33. C'est vrai, les sacrificateurs étaient les prêtres qui officiaient dans le temple pour accomplir les rites, qui offraient les sacrifices. Dans Marc 14, 53, je vous donne un exemple pour montrer que tout ça est exactement ce qui s'est passé. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens, les scribes. Et au verset 55, les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir et n'en trouvaient point. Étonnant de savoir que Jésus savait exactement, comme un film, ce qu'il allait lui arriver. Deuxième chose, comme quoi il serait livré aux scribes, verset 33. Les scribes étaient les érudits chargés de transcrire la loi. Leur responsabilité était d'appliquer, d'étudier la loi de l'Éternel et l'enseigner au peuple. Marc 14, 53 nous dit qu'il a en effet été livré aux scribes. 3. Qu'ils le condamneront à mort, verset 33 encore. Donc Jésus savait qu'on allait le condamner à mort. Et c'est vrai que durant le procès, je viens de le lire, ils ont décrété sa mort. Et ils l'ont livré à Pilate parce qu'ils n'avaient pas le droit, eux, de condamner à quelqu'un à mort, les Juifs, donc ils l'ont passé aux Romains, et c'est les Romains qui se sont chargés de le tuer. 4. Ils le livreront aux païens, verset 33, c'est ce que je viens de dire. On l'a livré à Ponce Pilate. C'est lui, en fait, qui a exécuté Jésus. Jésus savait ça, même ce détail. 5. Ils se moqueront de lui, verset 34, c'est ce qu'il dit. Voici, nous montons, verset 34. Ils se moqueront de lui. Et ça, de nouveau, en détail, il le décrit, Marc 15 et le verset 16. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils s'assemblèrent toute la cohorte et le revêtirent de pourpre, posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée, Puis ils se mirent à le saluer, « Salut, roi des Juifs !» et lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et fléchissant le genou, ils se prosternèrent devant lui. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Imaginez de savoir à l'avance tous ces détails. Ils cracheront sur lui, Marc 15, 19. 7, ils le battront de verge, Matthieu 27, 26 et 30, c'est exactement ce qui s'est passé. 8, ils le feront mourir, ça vous le savez aussi, crucifié. Et finalement, pour qu'il meure plus vite, une lance pour l'achever. En fait, c'est lui qui décide de ce moment de sa mort, mais ça, on le verra plus tard. Et dernièrement, en trois jours après, je ressusciterai. Ça, c'est la marque d'espérance. C'est ce qu'il dit à la fin du verset 33. Et trois jours après, il ressuscitera. Alors, Jésus sait tout ça. Il raconte ça à ses disciples. Pourquoi est-ce qu'il va subir tout ça? Peut-être un bon résumé de la réponse, c'est Jean 13, 1, avant la fête des Pâques, Jésus sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Jésus a décidé de faire cela parce qu'il nous aimait et parce qu'il savait que c'était la seule manière de racheter le monde de son péché, de mourir à la place de nous ou à notre place. Donc ça, c'est le premier point. Jésus a accepté de souffrir. Voilà pourquoi le Père l'a exalté. Il a accepté de subir tout cela pour toi et pour moi. Deux. Jésus a accepté de servir. Jésus a accepté de servir. Alors là, on rentre dans un récit très étrange, presque choquant, à partir du verset 35. Donc Jésus vient de leur expliquer, c'est le contraste en fait, qu'il va mourir. Et là au verset 35, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demandons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Réponse verset 37, « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Ah, il y a vraiment un contraste, quoi. C'est comme s'ils sont complètement sur des... Mais c'est... Il n'y a pas de communication entre les deux, là. Alors, le texte parallèle est quand même étonnant. Matthieu 20, 21, nous apprend un petit détail à ne pas manquer. Donc il y a ces deux frères qui arrivent. Il y a quelqu'un d'autre encore dans l'histoire qu'on retrouve dans Matthieu 20 et le verset 20. Alors, écoutez bien, la mère, vous avez bien entendu, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu ?» Réponse, ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Alors, je me suis posé la question cette semaine, mais pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait là, cette maman? Pourquoi elle est là? Je croyais que c'était Jésus et les 12 disciples. Tout d'un coup, il y a la maman de Jacques et Jean qui apparaît dans le truc. C'est quand même marrant, je trouve. Alors, reculons un petit peu. Nous savons que lorsque Jésus a appelé Jacques et Jean, donc ils étaient frères en tant que disciples, leur père était vivant, puisqu'ils travaillaient ensemble dans l'entreprise familiale. On le voit dans Matthieu 4, 21, lorsque Jésus les appelle, il est dit ceci, De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leur filet. Alors, il n'est pas impossible, alors ça c'est une conjoncture, on ne sait pas exactement, il n'est pas impossible que le papa soit mort entre-temps, c'est une supposition, mais apparemment la maman avait décidé de suivre Jésus avec ses deux fils, du moins là. Vous dites, mais attends, voir, mais je crois que c'était que les 12 disciples. Ah, pas trop vite. Luc 8, 2 nous dit qu'il y avait les 12 disciples plus tout un entourage de gens qui suivaient Jésus lorsqu'il se promenait à droite et à gauche. Et par exemple, dans Luc 8, verset 2, il est dit ceci, les 12 étaient auprès de lui avec quelques qui avaient été guéris d'esprits malins, de maladies, et ensuite il donne les noms Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons, Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode, Suzanne, écoutez bien, et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Donc, il y avait Jésus, il y avait les 12, mais ensuite il y avait des femmes et d'autres personnes, tout un entourage qui suivait Jésus lorsqu'il allait de lieu en lieu en Israël. Alors, c'est une théorie intéressante, épousée par beaucoup de commentateurs. C'est une supposition, mais qui tient la route. Écoutez bien, je lis. Une théorie épousée par la plupart des commentaires que j'ai lus, qui fait penser que la maman de Jacques et de Jean était en fait la sœur de Marie, la maman de Jésus. Si c'est le cas, cela veut dire que la maman de Jacques et de Jean était la tante de Jésus et que Jésus était cousin de Jacques et Jean. Vous suivez? Cette déduction est faite en comparant les trois listes des noms des femmes qui étaient présentes lors de la crucifixion et la résurrection de Jésus. Alors, vous pouvez regarder ça plus tard. Jean 19, 25 nous dit que Marie avait une sœur. Matthieu 27, 56 et Marc 15, 40 semblent indiquer que la sœur de Marie s'appelait Salomé. Elle était donc la mère de Jacques et de Jean. Son mari aurait été Monsieur Zébédée. Tout ça pour dire que c'est pas impossible que Jacques et Jean étaient cousins de Jésus et que cette maman est la tante de Jésus. Ça aggrave un petit peu la situation parce que ça s'appelle du népotisme. Hein? On utilise ces liens familiaux pour essayer de monter. Ça passe très mal dans le groupe, très très mal, on y revient, d'accord? Donc Marc nous dit que les deux fils font la requête, Matthieu nous dit que c'est la maman qui fait la requête. Apparemment, oui, les trois font la requête. Alors c'est vrai que la présence de cette maman m'intrigue, honnêtement. Parce qu'à première vue, je me dis, oh, c'est trop beau, une maman qui aime ses enfants, qui veut vraiment, voilà, écoute, tu ne voudrais pas aider mes fils. C'est sympa, c'est beau, c'est chou, c'est mignon, d'accord. Ça montre aussi qu'il y a une certaine foi dans cette famille, parce qu'ils croient vraiment que Jésus va venir dans son royaume. Mais regardons le texte un petit peu plus près. Cette femme, et donc les deux fils, demandent que ces deux, Jean et Jacques, soient assis l'un à droite et l'autre à gauche de son royaume. Alors, pourquoi cette requête? Et pourquoi cette requête là maintenant? Alors, mes amis, c'est là où on voit l'utilité du contexte. Une fois qu'on comprend le contexte, on comprend. Il faut reculer au verset du chapitre 10, verset 28. Chapitre 10, verset 28. Pierre, donc après l'histoire du jeune homme riche qu'on a vu, Pierre dit, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Puis Jésus répond au verset 29, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoive au centuple présentement dans le siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Voyez-vous, au verset 27, Pierre demande quelle serait leur récompense pour l'avoir suivi. Réponse au verset 28. Matthieu 19, le texte parallèle est vraiment intéressant, je vais vous lire ça. Matthieu 19, 27, écoutez, le texte parallèle, parce que là c'est encore plus clair. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, qu'en s'en aurait-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Alors moi je pense que la référence au renouvellement de toutes choses est une référence au royaume terrestre décrit dans Apocalypse 20, lorsque les croyants régneront avec Christ. Mais ce qui est important à souligner ici, c'est que la famille Zébédée se dit, c'est pour bientôt les gars. Jésus vient d'expliquer qu'il va mourir. Qui veut dire que ce que Jésus a dit et a promis sur le fait qu'on va régner avec lui, c'est pour bientôt. Donc eux, ils se frottent les mains, ces deux frères, et la maman des deux frères. Il va bientôt mourir, nos places d'honneur en tant que juge sur les 12 tribus d'Israël, c'est pour bientôt. Puisque c'est pour bientôt, voyons si on peut concocter quelque chose pour avoir les meilleures places. Est-ce que ça vous choque? J'ai entendu récemment à la radio une histoire d'un homme qui aimait les marathons et qui faisait une course. Sa femme et ses deux enfants regardaient le mari courir, mais à un moment donné, le plus jeune des enfants s'est trouvé séparé de sa mère. Alors le papa courait. Il a vu au kilomètre 6 son cadet de 9 ans au bord de la route. Donc il s'est arrêté en courant. Il lui a dit, écoute, reste ici. Dès que je vois maman, je lui dis de venir te chercher. Donc il continue à courir. Un kilomètre plus loin, il voit sa femme et l'aîné des enfants et leur dit où trouver le cadet, un kilomètre avant. Donc ils vont le récupérer pendant que le père termine sa course. Mais à la fin de la course, la famille se retrouve, mais le cadet qui est égaré au bord de la route manque toujours, il est introuvable. Et en plus, il y a eu récemment des rumeurs qu'un vagabond meurtrier errait dans les parages. Donc c'était la panique générale dans la famille. Le père et son fils aîné vont vite à la police pour expliquer la situation. Réponse des policiers, « Monsieur, il faut remplir le formulaire des personnes disparues. » Le père est dans un désarroi total. Il prend le formulaire et commence à écrire et le remplir. Sur quoi le fils aîné se penche vers l'oreille de son père et lui dit, « Papa, si on ne retrouve pas Johnny, est-ce que je peux avoir sa chambre ?» Elle est marrante cette histoire, vous ne trouvez pas ? Mais écoutez, cette histoire illustre parfaitement bien ce qui se passe ici en fait. L'enjeu de la famille Zébédée. Écoutez, Jésus vient d'un moment très sobre d'annoncer qu'il va mourir. Ils devraient être accablés par ce qu'ils entendent. Mais non, ces deux frères se disent, hé, Jésus, une fois que tu seras mort, on peut avoir les meilleures places dans ton royaume. Plutôt mauvais goût. Orgueil présomptueux. Alors maintenant, Jésus réagit. Verset 37, accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à sa droite et l'autre à sa gauche quand tu seras dans ta gloire. Et la maman, qu'est-ce qu'elle fait là? Moi, je pense que ces deux fils ont utilisé leur maman, peut-être même la tante de Jésus, pour faire passer leur message. Manipulation nette et claire. Eh oui, mes amis, les disciples, parfois, font des choses vraiment stupides. Ça arrive, malheureusement. Donc Jésus réagit au verset 38. Il leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. » Et ensuite, il dit, « Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, être baptisé du baptême dont je dois être baptisé. » Vous savez, c'est vraiment... Cette histoire illustre vraiment un danger, mes amis. Le danger de l'ambition. Alors, il y a une juste ambition. Il y a une ambition aussi qui est très mauvaise. Et là, on voit qu'il y a parfois des hommes qui feront n'importe quoi pour grimper les échelons du succès et de l'honneur et ne se gêneront pas pour écraser les gens autour d'eux. Et ce qui est incroyable, c'est que ces deux hommes, ces deux disciples, faisaient déjà partie, non seulement des 12, mais du groupe plus proche de Jésus, le plus intime autour de Jésus. Mais ce n'est pas assez. Ils veulent encore plus. Et ça, c'est dangereux, c'est ce qu'on avait avec le jeune homme riche. Parfois, assez n'est jamais assez. Trop n'est jamais assez. Donc il dit, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? La coupe est une expression idiomatique qui voulait dire éprouver une grande souffrance. Rappelez Jésus dans Matthieu 26, 39. Il y avait cette expression vis-à-vis de la coupe. Matthieu 26, 39, dans le jardin, lorsqu'il est en train de prier. Il est dit, puis on fait quelques pas, il se jeta sur sa vase et prie ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. La coupe de la colère ardente qu'il allait subir à la place des hommes. Et donc cette coupe, c'était un symbole de cette colère, de cette souffrance. Et donc il leur dit, Jean et Jacques, est-ce que vous êtes prêts à souffrir? À vraiment souffrir? Amèrement, en tant que disciples? En fait, il leur dit, vous voulez-vous une récompense? Ok, ben, la récompense va certainement passer par la mort. Le baptême dont il parle ici, l'idée, c'était l'idée d'être submergé par l'affliction de nouveau. Est-ce que vous êtes prêt à passer par la mort? Car celui qui veut être mon disciple, qu'il porte sa croix. Est-ce que tu es prêt, toi, à porter ta croix et mourir? C'est ce qu'il leur dit ici. Alors ils répondent, oui, nous le pouvons. Oui, nous le pouvons. Nous pouvons payer le prix. Regardez verset 39, et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez cette coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Ah, écoutez, puisque Jésus connaît parfaitement l'avenir, il l'a déjà prouvé. Il savait déjà l'avenir qui était réservé pour ses deux frères. Et quel était l'avenir réservé pour ses deux frères? Acte 12. Ça, c'est pour le premier frère. Verset 2. Acte 12 et le verset 2. Je commence au verset 1. Voyant le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Jacques a été probablement décapité. Et Jean, nous apprenons dans Apocalypse 1, 9, « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Lui était exilé sur l'île de Patmos pour sa foi en Christ. Les deux ont souffert horriblement pour leur foi. Lorsqu'il était à Patmos, c'est là où il a reçu la révélation de l'Apocalypse. Mais il a souffert. Donc Jésus, très beau, verset 39, dit qu'il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois baptiser, verset 40. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, mais ne sera donné qu'à ceux à qui cela a été réservé. Il dit, oui, vous allez souffrir, mais les places d'honneur, c'est pas moi qui les distribue. C'est pas moi qui les distribue. C'est le Père. Et là, il a choisi, hein, puisque lui connaissait l'avenir, il a choisi à ce moment-là d'étouffer sa gloire dans son cocon humain. Et ça, on le voit aussi. Hein, parfois, il y a l'humanité de Jésus qui ressort, sans péché. Parfois, sa divinité qui ressort. C'est comme, par exemple, dans Matthieu 24, 36, où là, de nouveau, il étouffe, ou je ne sais pas si c'est le bon mot, mais il étouffe sa divinité. Il dit dans Matthieu 24, 36, ceci, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, donc de mon retour, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Mais le Père seul. « Et dans acte 7, il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Donc Jésus dit tout simplement, et on ne sait pas exactement pourquoi, mais ici, dans cet incident, il dit, « Bah écoutez, mes amis, ce n'est pas moi qui distribue ces places d'honneur, c'est le Père. » Alors là, mes amis, une bombe explose dans le groupe de 12. Verset 41, les 10 ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Indigné, sentiment de colère que soulève une action qui heurte la conscience morale et le sentiment de justice. Bref, vous savez quoi? Ils sont écœurés, révoltés, scandalisés. Alors certains commentateurs ils disent, ils sont écœurés parce qu'ils n'y avaient pas pensé eux. Ah mince, hey, tu m'as précédé, c'est moi qui aurais voulu lui demander. Ça, c'est une possibilité, ou bien ils sont simplement écœurés par ce moment d'humanité charnelle dans ces deux disciples. Et en plus, c'est là où c'est intéressant, y a-t-il en plus un soupçon de népotisme, c'est-à-dire une recherche de faveur envers les membres d'une famille? Ah ouais, il y a la maman qui arrive en plus, ah, ça passe vraiment mal dans le groupe quoi. Est-ce que c'était tante, cousin? C'est pas top là. Hein. Et donc Jésus maintenant doit intervenir. Il doit intervenir. Et là, tout le monde est cassé. Verset 42. Jésus les appela et leur dit. Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit esclave de tous. Vous savez ce que Jésus dit ici? Là, maintenant, c'est la leçon. Il dit que le monde est rempli de gens qui déploient toute leur énergie pour grimper au sommet, et une fois en haut, ils font ressentir le poids de leur autorité. Ils ne pensent qu'à eux. Je suis numéro un. Oui, dans le monde, les grands... Ils généralisent. Hein, sont ceux qui dépensent leur énergie pour parvenir tout en haut, pour que les gens en dessous d'eux se rappellent qu'ils sont en dessous d'eux. Et qu'ils comprennent et capent le poids de leur autorité. Jésus les appelle des tyrans, des despotes, des gens cruels, abusant de leur pouvoir, qui asservissent les autres, faisant d'eux des esclaves. C'est vrai, dans le monde, celui qui dirige d'autres est considéré grand. Ce n'est pas nécessairement un mal, mais ça peut être quand on dirige comme ça, quand on est tyrannique. Et on est grand quand notre parole ou nos actions font agir les autres. Jésus dit, voilà ce qui caractérise le monde. Le monde, le but c'est d'arriver en haut et écraser les autres pour y arriver, dans tous les domaines. Globalement, c'est ça. C'est vrai. Ça, c'est le monde. Mais regardez verset 43. C'est ça la révolution de l'évangile, mes amis. Regardez le verset 43. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Non, pour toi, disciple, pour toi, chrétien, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est l'opposé. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Ici, les valeurs du Seigneur renversent totalement les valeurs du monde. Jésus dit que dans le royaume sur lequel lui est suprême, la grandeur s'obtient de la manière opposée que dans le monde. La grandeur dans son royaume consiste à se donner aux autres pour la gloire de Dieu comme lui l'a fait. Être grand veut dire aimer, pas écraser. Ça fait réfléchir, mes amis. Écoutez, là, on est dans une... Un chrétien, il est 100% opposé au monde. Par rapport à cela. Du moins, il devrait l'être. Jésus dit, Jean 13, 34, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et le verset 35, pourquoi est-ce qu'il est là? Parce que c'est tellement inhabituel ce que je viens de lire dans le monde qu'il donne le verset 35. Regardez, Jean 13, 35. « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ben, ce n'est pas ce qui caractérise le monde. Le monde, ils te font croire qu'ils t'aiment, mais en fait, c'est pour obtenir quelque chose. Mais dans le monde chrétien, l'amour est authentique. Je vais sacrifier pour toi, je vais être serviteur, je vais être ton esclave pour t'honorer. Et cet amour-là est tellement révolutionnaire que le monde va se gratter la tête, il va dire, maintenant, vous devez être chrétien. Vous devez être chrétien. Ben oui, un texte qu'on lit tellement dans les mariages, mais peut-être aujourd'hui, il tombe vraiment bien. L'amour, c'est quoi? En Corinthiens 13, à partir du verset 4, l'amour est patient. Voici ce que devrait caractériser un chrétien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point dans l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Ça, c'est les valeurs du Seigneur, mes amis. C'est révolutionnaire. 1 Jean 3, 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle qui demeure en lui. Écoutez bien ce qu'il est en train de dire. Si tu hais quelqu'un, si tu le hais, tu n'es probablement pas un chrétien. C'est ce qu'il dit. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Alors peut-être qu'il parle de chrétien, si tu es un chrétien, mais si tu es un non-chrétien, tu le hais haïr. C'est ce qu'il dit là. Et vous n'avez aucun meurtrier qui n'a la vie éternelle. Ensuite il dit verset 16, « Nous avons connu l'amour, on sait qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi nous devons donner notre vie pour les frères. » Waouh, c'est ça. L'amour chrétien, il est révolutionnaire, c'est l'opposé. Le monde, je monte et j'écrase, nous, je descends pour honorer. En fait, le royaume de Dieu, c'est une pyramide à l'envers où le croyant est en bas, le serviteur et l'esclave de tous. Donc, qu'est-ce que Jésus dit ici? Tu veux être grand dans le royaume de Dieu? Sers les autres. Tu veux être le premier? C'est intéressant, il ne dit même pas que c'est un mal de vouloir être le premier, c'est intéressant, mais qu'est-ce que ça veut dire? Deviens esclave de tous. Et ceci mène au troisième et dernier point, avec quelques applications, très rapidement. Jésus a accepté de se souffrir, de servir, et troisièmement de s'offrir, verset 45, car, et il donne la raison. Pourquoi est-ce qu'on doit faire ça? Pourquoi est-ce qu'on doit aimer de manière révolutionnaire? Pourquoi est-ce qu'on doit servir? Pourquoi est-ce qu'on veut servir? Pourquoi est-ce qu'on veut être esclave? Pourquoi est-ce qu'on veut s'aimer comme la Bible décrit? Pourquoi est-ce qu'on est prêt à donner notre vie les uns pour les autres? Pourquoi est-ce qu'on va servir comme cela pour que le monde sache qu'on est chrétien? Pourquoi? Ben, il le dit au verset 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Notre exemple, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est ce que lui, il a fait. Lui, il était dans sa gloire céleste. Il a dit, je vous aime. Il est venu sur terre. Il a vécu une vie ignoble. Il a été crucifié pour toi et pour moi. Et Dieu l'a hautement glorifié. Il a donné sa vie en rançon. La rançon, c'était le prix payé pour libérer un esclave. Nous sommes esclaves de notre péché. Dans 2 Corinthiens 5, 21, le verset le plus clair sur ce sujet, « Celui qui n'a point connu le péché, parlant de Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Ouais, lui qui était sans péché, il a pris mon péché sur lui. Il est mort à ma place. Il s'est substitué à nous. Regardez ce petit détail. Pour servir et pour donner sa vie comme rançon de plusieurs. Pas pour tous. Ça, c'est la question. Hein. Mais écoutez, seuls ceux qui sont sauvés auront bénéficié de son sacrifice à leur égard. C'est pour ça qu'il dit plusieurs. Il reconnaît que certains vont refuser le don de la vie éternelle et le don du pardon du péché. Certains vont dire non, ça ne m'intéresse pas. Donc il ne faut pas être surpris, on peut être triste, mais il ne faut pas être surpris quand certains rejettent l'évangile. C'est comme ça, il le dit ici. Mais certains, plusieurs, eux, recevront l'évangile et le pardon du péché. Et le résultat ? Dieu l'a honoré. Je conclue. Les fils de Zébédée, imbibés de valeurs du monde, ont cherché à grimper l'échelle du pouvoir et de la gloire en écrasant les autres au passage. Même leurs plus chers amis. Jésus, lui, a accepté d'être honoré du Père. Pourquoi ? Parce qu'il a accepté l'opposé, de souffrir, de servir et de s'offrir pour les autres. Alors je pose la question, pour un chrétien, quel est l'exemple que nous, on devrait suivre ? C'est peut-être quand même assez clair, je trouve. Est-ce que c'est facile ? Non. C'est pas facile parce que nous avons un truc qui nous colle à la peau, ça s'appelle notre chair. Et notre chair aime pécher. C'est ça le problème. On a une nouvelle nature dans le cœur qui fait bataille, Romains 7, avec notre chair qui aime encore le péché. C'est pour ça qu'on doit remplir notre cœur des vérités de Dieu. Oui, il nous pardonne. On est pardonné, je suis lavé, purifié, mais tant que je suis dans le monde, j'ai encore cette chair qui me colle à la peau. Et vous savez exactement de quoi je parle. Amen ?
Ouais, ouais.
Mais Christ, Christ, plus grand que tout cela. Alors moi, je me suis posé la question, comment pratiquement devons-nous nous servir les uns les autres ? S'il dit ça, il dit celui qui veut être grand, qu'il serve et qu'il soit l'esclave de tous. Alors je voulais vous donner un petit truc tout simple pour que vous rappeliez comment nous servir les uns les autres. D'accord ? Tout simple, très rapide. Allez avec moi à Exode 20, Exode chapitre 20. Les 10 commandements. D'accord ? Les 10 commandements. Alors vous savez que les 10 commandements sont divisés en deux. Les premiers 4 parlent de notre relation avec Dieu et les derniers 6 parlent de notre relation avec les hommes. Alors on va prendre les derniers 6. Tout simple, d'accord ? Je veux te servir. Comment faire ? Voilà, il y a juste 6 manières toutes simples, juste pour commencer. D'accord ? Le cinquième commandement dit, verset 12, « Honore ton père et ta mère. » Ah ben voilà. La première chose qu'on peut faire pour nous servir les uns les autres, c'est nous qui avons des parents. Qui a des parents ici ? Ah ben ouais, question piège. Hein. On a tous des parents. On peut commencer déjà en honorant nos parents. Ça, c'est hyper pratique. On honore la dignité de nos parents. Deuxième chose, sixième commandement, verset 13, « Tu ne tueras point. » Bon, de vous dire ça, c'est facile. D'accord. C'est facile. J'honore la vie de mon prochain. Jésus a dit que celui qui est en colère contre lui, c'est comme s'il l'a tué. Je maîtrise ma colère. D'habitude, ma colère contre quelqu'un, c'est pour me... pour grimper. Non. J'honore la personne. Je l'aime au lieu de la tuer. Ça, c'est pas facile. Avec le Seigneur, c'est possible. Prochain commandement, verset 14, « Tu ne commettras point d'adultère. » J'honore l'intimité de mon prochain, car son conjoint lui appartient. Il ne m'appartient pas. Je ne prends pas ce qui appartient à un autre. Son épouse ou son époux lui appartient. Et je ne déshonore pas la sexualité d'un autre. Ça, c'est une belle manière de servir quelqu'un. Surtout dans le monde d'aujourd'hui, où le monde n'a pas du tout capté cela. Vous voyez, c'est révolutionnaire le christianisme. Verset 15, « Tu ne déroberas point. » Ah ben voilà, une autre manière de nous servir, honore l'argent de ton prochain. Honore l'argent et le temps de ton employeur. Si tu travailles de telle heure à telle heure, travaille de telle heure à telle heure. Sois le meilleur employé qu'ils ont. Le meilleur. Le prochain. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Neuvième commandement. Je ne vais pas mentir contre quelqu'un et le déshonorer. Non, j'honore la réputation de mon prochain. Je vais le servir en honorant sa réputation. Pas mentir contre lui et parler de mal contre lui. Non. Dixième commandement, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni la femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, etc. J'honore les biens de mon prochain. Écoutez, déjà si on fait ça, mes amis, ce sera la révolution. Ce sera la révolution. Je crois que la question c'est, et le principe ici c'est ça. Ce texte, il nous apprend quoi? Il nous montre l'exemple de Jésus qui lui est venu pour servir et donner sa vie en rançon. Et nous qui le connaissons, nous allons faire pareil. Nous allons servir, nous allons devenir esclaves, nous allons honorer les uns et les autres. Et si on fait ça, les gens vont nous regarder, les gens du monde, ils vont se dire, là-bas, là-près, ils sont différents, il y a un truc. Il y a un truc là-bas. L'amour est tel que là, je ne capte pas. Je suis curieux. J'espère qu'ils vont venir voir. Et voir que ce qui nous motive, mes amis, c'est Jésus-Christ. Alors, si tu ne connais pas Christ ce matin, tu es ici, il faut commencer là. Il faut commencer en réalisant que ton cœur est pécheur. Tu es pécheur et tu as besoin de la rançon que Christ offre pour toi et ton égard. Voilà, on va prier. Faites le point dans vos vies. Vous avez entendu ces choses. Seigneur, que dois-je faire? Toi, personnellement, qu'est-ce que tu dois faire? Peut-être tu peux jouer une minute et ensuite on termine le culte. Prenez ce temps, faites le point dans vos cœurs et que le Seigneur bénisse ce moment. Seigneur, tu nous places devant un choix ce matin. On peut être comme Jacques et Jean. Ou on peut être comme Jésus. Seigneur, je te remercie parce que Jacques et Jean, ils ont appris et ils ont reconnu leur tort. Et les deux ont servi jusqu'à la mort. Seigneur, nous ne connaissons pas notre avenir, mais... Seigneur, nous avons tous certainement fait beaucoup d'erreurs dans ce domaine. Seigneur, nous aimerions terminer comme Jacques et Jean. Nous ne souhaitons pas la mort, mais nous voulons être prêts à mourir. Si tel est le service auquel tu nous appelles. Aide-nous déjà, Seigneur, à nous aimer les uns les autres, à nous servir les uns les autres. Déjà ici, dans notre Église, Seigneur, avec nos voisins, nos prochains, au travail, que nous puissions être le reflet même du nom de Jésus. Merci et merci encore, Seigneur. Nous t'aimons et nous te louons et nous nous réjouissons pour dimanche prochain, Seigneur. Nous allons pouvoir venir et célébrer ensemble le 7e anniversaire de cette Église, Seigneur. Que nous puissions être nombreux pour venir célébrer tout ce que toi tu as fait, Seigneur. On te remet encore ce projet de concert de Noël, Seigneur, aussi. Oh, tu vois ce que nous voulons faire. Nous servons en fait la ville de Genève pour qu'ils puissent entendre le réel évangile de Jésus-Christ par le biais de ce concert. Seigneur, que tout ce que nous faisons et cet objectif. À toi la gloire, au nom de Jésus.